On fête la Pâque ce week-end. Le message d'aujourd'hui, c'est la victoire de Jésus sur la mort. Ah, il y a un qui est d'accord avec ça. C'est un jour de joie. Je me souviens, ça va faire... Geoffrey va avoir 35 ans. Désolé, Geoffrey, de révéler ton identité. Le jour d'un an de notre fils, nous avons, le 21 avril, donc 89, nous avons donné notre vie au Seigneur, Marie et moi, ensemble. C'était un vrai jour de victoire, à tel point que le jour où nous sommes fait baptiser, Marie, j'espère que tu t'en souviens, tu te souviens du chant que nous avions choisi, c'est « Jour de joie, jour de victoire ». Ça, je remarque qu'il n'y a que les vieux qui le savent. Les plus jeunes ne le connaissent pas, celui-là. Donc, si vous voulez savoir si vous êtes vieux, eh bien, c'est que vous connaissez ce chant. Camille, tu le connaissais ? Oh là là, elle est vieille avant l'âge. Alors, est-ce que vous m'aidez ? On le chante ensemble ? Allez. Jour de joie, jour de victoire. Il étend sa main d'en haut, me retire des grandes eaux. Il me saisit, il me délivre, l'Éternel est mon appui devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Merci les vieux. Il y en a un paquet. Il va falloir, Seigneur, à rajeunir cette église. Pourquoi nous avions choisi ce chant ? Parce que nous étions en train d'être, nous perdre dans les méandres de notre péché. Et un jour, Jésus est venu. Il a touché notre cœur. Vraiment, je peux vous le dire, ça a bouleversé, changé notre vie. Il nous a vraiment retirés des grandes eaux, avec grâce. Je ne peux pas oublier ce jour, non pas parce que c'était le jour de l'anniversaire de mon fils, mais je ne peux pas oublier le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, parce que c'était pour moi un switch, un changement radical vers la vie que Jésus voulait me donner. Dieu se lève avec éclat et il marche devant moi. Et j'ai appris dans ma vie à laisser Jésus marcher devant moi. Parce que le problème, c'est que quand on donne notre vie au Seigneur, on a toujours envie de marcher devant lui, vous voyez ? Et lui dire, tiens Jésus, je vais t'amener là où j'ai envie. C'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est lorsque je marche derrière Jésus, sur les pas de Jésus. Et c'est notre grande difficulté, oh, peut-être pas la vôtre, mais c'est la mienne, c'est d'avoir... appris à laisser marcher Jésus et à suivre Jésus là et me laisser conduire là où il voulait aller. Et c'est un jour de victoire. Voilà ce que le Seigneur m'a dit cette nuit. Tu vas leur dire, c'est un jour de victoire. Alors quand je vous parle de victoire, je ne sais pas comment vous voyez la chose. Parce que je peux dire, Jésus est victorieux, alléluia. Mais moi, j'ai besoin, alors c'est mon côté un peu... Je sais pas, cartésien, je sais pas. J'ai besoin de comprendre, en tout cas. J'ai besoin de comprendre quelles sont les victoires que je peux avoir, dont je peux me saisir dans ma vie. Je peux chanter jour de joie, jour de victoire, ouais, ouais. Mais qu'est-ce que ça implique dans ma vie? C'est ça qui est intéressant. Alors, j'ai pas l'intention de vous faire un cours de théologie sur la victoire, sur, je vais vous parler de trois domaines dans lesquels nous sommes victorieux. Nous possédons cette victoire. Trois domaines. La victoire, c'est le succès obtenu dans un combat, une bataille, une guerre. La victoire s'oppose à la défaite. Ça veut dire que si je déclare la victoire, je ne suis pas défait. C'est une heureuse issue d'une lutte, d'une opposition pour la personne qui a eu l'avantage. Et ça s'oppose totalement à l'échec. Et la victoire vient du grec Nike. À mon avis, c'est parce que c'était aussi une déesse grecque. la déesse de la victoire. À mon avis, ils ont plutôt choisi ça. Les deux gars qui ont inventé la marque Nike, c'était deux sportifs de haut niveau. Et je pense qu'ils ont plutôt dit c'est la déesse de la victoire. Mais dans la Bible, on voit Nike. Et plutôt Nikao, ça veut dire dompter, vaincre, triompher, surmonter. Il y a quelque chose que vous devez savoir, mes frères et mes sœurs, c'est que vous ne pouvez pas avoir de victoire sans lutte ou combat ou sans pas de foi. La personne qui dit « je veux être victorieux » et qui reste assise, ben elle peut laisser passer la victoire en face de son nez. Et la victoire biblique, sachez-le, la victoire biblique exclut toute forme de compromis avec le vaincu. Je sais comment se passera sans doute la fin du conflit en Ukraine. Il y aura chacun sans doute dira c'est moi qui suis victorieux et il y aura un compromis qui sera signé sans doute. Vous voyez ce que je veux dire? Or, dans la Bible, jamais il est écrit cela. Jamais il est écrit que dans la victoire, je perds quelque chose. Je suis victorieux. Comme la jeune femme qui a un rouge à lèvres bien rouge. Ça, c'est pour les dames, j'ai mis ça. Alors, quelle est victoire alors? Parce que moi, ce qui m'importe, c'est que si je dis que Jésus est victorieux, la Bible nous parle de victoire sans cesse. Dans l'Ancien, le Nouveau Testament, dans la Bible entière, elle nous parle de la victoire et de la victoire de Dieu et de la victoire de son peuple. Mais dans quel domaine, moi, je peux saisir cette victoire? La première, c'est sur la puissance du péché. Regardez, il est écrit dans 1 Corinthiens 15. Lorsque ce corps corruptible, ce corps actuel, ce corps que j'ai, aura revêtu l'incorruptibilité, c'est-à-dire un jour je serai parfait. Même si vous me voyez déjà parfait aujourd'hui, sachez que je serai encore plus que parfait. C'est pour ça que le français, dans le français, il y a le plus que parfait. C'est notre côté orgueilleux, vous voyez? En France, on aime le plus que parfait. Alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. Écoutez bien ceci. La mort a été engloutie dans la victoire. Ouais. Mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne la puissance du péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit adoré. Lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et mes sœurs, soyez fermes, inébranlables, etc., etc., etc. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Paul fait référence, vous savez à quoi? Au prophète Osée, qui cite ça. Et là, j'ai pris un aiguillon moderne, avec une petite joute électrique, vous voyez? Cet aiguillon, en fait, ça sert à diriger les bêtes. Ça servait à diriger les bêtes. Et cet aiguillon, en fait, on en arrivait à diriger les bêtes jusqu'à l'endroit où elles étaient abattues, jusqu'à l'abattoir. Est-ce que vous comprenez ce que c'est que l'aiguillon de la mort? C'est le péché. C'est que le péché, c'est ce qui me conduit à la mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Ça, c'est l'aiguillon du péché. Alors, comment ça faisait? C'est qu'on piquait la bête à un endroit, et je ne sais pas si vous êtes déjà fait ça, mais ne serait-ce que de vous piquer le doigt, vous avez l'impression, parce qu'il y avait des terminaisons nerveuses très fines ici, qui rejoignent. Des fois, vous avez l'impression que on vous pique là, vous avez mal ici. Vous avez déjà fait cette impression-là quand vous prenez une ronce ou un truc comme ça, ou une aiguille quand vous recousez vos boutons, pour les hommes qui feraient ça par hasard, s'il y en a. Et en fait, cet aiguillon-là, il touchait le cœur de la personne. Il poussait la personne vers la mort. C'est fou, d'accord. Mais plus encore, cet aiguillon-là, par la suite, il est devenu un instrument de torture Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le péché, mes frères et mes sœurs, non seulement nous conduit à la mort, mais pendant tout le temps où je vais sur le chemin de l'abattoir, je souffre. Je suis torturé par le péché. Moi, j'ai connu ça. Peut-être pas vous. Jusqu'à l'âge de 25, 26 ans. J'ai connu la puissance du péché. J'ai connu combien ce péché me torturait. Qu'est-ce que Paul veut dire ici? Bien que le péché me dirige et me conduit vers la mort, mais plus encore que ça me torture et que ce péché nous torture jusqu'à ce que nous arrivions à la mort. Le péché torture le monde aujourd'hui. Et parfois, il torture des gens, mais d'une manière terrible. Par exemple, il y a des gens qui souffrent tellement aujourd'hui qu'ils sont conduits jusqu'au suicide. 2014, je prends un chiffre, 2014, 16% des décès chez les jeunes entre 16 et 25 ans, 16% des jeunes qui mouraient, c'était parce qu'ils s'étaient suicidés. Et ce chiffre, ce nombre, a augmenté avec ces dernières années, et on le comprend. C'est beaucoup plus aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le péché, et quand Satan nous pousse à pécher, et quand notre chair nous pousse à pécher, c'est pour nous faire souffrir, nous amener à la mort. Puis si je m'arrêtais là, on suicide, on se tire une balle dans la tête. Mais, regardez ce que dit Paul, mais que Dieu soit remercié, il dit. Moi j'aime bien les mais de Dieu. Oh, pas toujours. Parce que des fois, il me dit, mais Bruno, tu devrais faire autrement. Ça ne m'arrange pas. Mais là, c'est un mais qui m'arrange, si vous voulez. Et le mais de Dieu, Paul ajoute, mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est puissant! Il nous donne la victoire sur l'aiguillon de la mort, sur la puissance de la mort. Quelle déclaration, quelle promesse, n'est-ce pas? Mais comment moi, je vais posséder cette victoire? Souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure, je ne peux pas posséder de victoire si je ne bouge pas. Je ne peux pas posséder de victoire si je ne m'engage pas vers quelque chose. La victoire doit enclencher quelque chose en moi. Ben, je suis désolé de vous le dire, c'est en mourant. Meurs. Je m'explique. Quand vous prenez quelqu'un qui est atteint d'un cancer, prenez une personne qui est atteinte d'un cancer et qui malheureusement, parce qu'il y en a, il y a des personnes qui meurent des suites du cancer. Le cancer, que fait-il? Il commence par une petite tumeur de rien du tout, puis il se développe. Si par malheur la personne n'est pas guérie, il se développe, il prend place dans tous les organes et la personne meurt d'un cancer généralisé. Vous savez ce que devient le cancer le jour où la personne meurt? Le cancer meurt. Il n'a plus sa puissance. Il n'a plus son efficacité. Dès lors que le cœur de la personne s'arrête de battre, le cancer arrête de se développer et il meurt. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle analogie je peux prendre avec ça? Comment je peux saisir ces choses? Bien, tout simplement, en suivant ce que dit l'apôtre Paul. Et c'est là où nous pouvons nous réjouir de ce que Jésus a accompli sur la croix. Il a dit, nous savons, dit Paul, en Romains 6, verset 6. C'est facile à retenir. Romains 6, verset 6. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux être libéré du péché? De la puissance du péché? Reçois Jésus. Parce que en recevant Jésus, je reçois sa mort en moi, et je meurs avec lui, et je passe par la croix, et je passe par la mort. Ainsi, le cancer qui me ronge, le péché qui me ronge, meurt. Il y a des gens aujourd'hui qui désirent être meilleurs. Sois meilleur, fais de la méditation, fais du sport, sois maître de ton corps. Je peux vous dire, ça ne marche pas. J'étais un sportif. J'essayais de maîtriser la colère qui était en moi. Je n'ai jamais réussi à maîtriser la colère qui était en moi. C'est lorsque j'ai décidé de mourir en Christ que j'ai commencé à maîtriser cette colère. Parce que le péché qui était en moi, cette violence qui était en moi, a pu être crucifié sur la croix. Et lorsque je fête la Pâque, quand je fête la mort et la résurrection de Jésus, je fête d'abord sa mort et je le remercie, Seigneur, parce que tu es mort, parce que j'ai la victoire sur le péché en ton nom, Seigneur. Alors vous allez me dire, mais comment se fait-il que je pêche encore ? Alors, j'ai plus forcément l'aiguillon qui me pique les fesses, si vous me permettez l'expression. Par contre, je peux encore avoir une petite voix qui me dit « Pêche, souviens-toi comme c'était bon. Continue, tu vas voir. » Est-ce que vous comprenez la différence ? L'aiguillon ne peut plus me piquer, mais on peut encore me parler et m'insuffler des choses. Et c'est alors que je dois commencer à mettre mes pensées en cohésion, en relation avec celle de Dieu. C'est pourquoi Paul dit en Romains chapitre 12, il dit « Soyez renouvelés dans votre intelligence. » Et comment puis-je avoir mon intelligence renouvelée ? Il n'y a pas 36 solutions, hein ? C'est en méditant la parole de Dieu. Hier, Maryse me dit, elle me reprochait des petites choses, voilà, je vois ma vie privée maintenant, on aura tout vu. Et je lui ai dit à Maryse, tiens compte de mes progrès. Et Maryse, elle a répondu, oui, c'est vrai, tu as fait des progrès. Je le dis comme ça. Ça fait du bien. Ça, c'est le plus que parfait français. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Parce que j'ai pris la décision de m'accaparer les paroles de Dieu. Et de penser comme Dieu, et de vivre comme Dieu. Moïse, quand il descend de la montagne, je le répète souvent, mais il n'a pas le visage qui reflète la misère, qui reflète le péché, qui reflète la défaite. Son visage est rayonnant de la gloire de Dieu. C'est dans sa présence qu'il a été changé, transformé, ou à mon avis, il a été bouleversé. Et vous voyez comment Dieu fait ? Et oh Moïse ! Enlève tes Nike, car le lieu sur lequel tu es est saint. Allez, j'arrête là. Le deuxième point, sur la puissance du mensonge. Regardez ce qui est écrit en 1 Jean 4,4. Vous, petits enfants, même si j'ai pu m'apercevoir qu'il y a quelques vieux, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous avez vaincu ces prétendus prophètes. Je prends la version Nouvelle Bible Second, hein, d'accord, 21. En fait, c'était des gens qui niaient la nature divine de Jésus-Christ et de son œuvre. Et il dit, vous avez vaincu ces prétendus prophètes par celui qui est en vous. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous, c'est qui ? Ah, il y a trois convertis, c'est parfait. Celui qui est en vous, c'est Jésus est en moi. Jésus est en vous. Moi, j'ai pas peur de le proclamer, hein. Et celui qui est dans le monde, c'est le père du mensonge. Il est dans le monde. Il passe son temps à mentir. Comme on dit dans le Nord, c'est le roi des menteux. C'est vrai qu'elle dit. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que celui qui est en moi, c'est Jésus, c'est la vérité. Celui qui est dans le monde, c'est Satan, c'est le père du mensonge. Voici quelques mensonges du diable. Oh, sois prudent. Ne te donne pas trop au Seigneur. Ne te donne pas trop dans le corps du Christ. Donne pas surtout. Parce que tu sais, si tu te donnes trop, si tu te livres trop, on pourrait utiliser ça contre toi. Et ne me dites pas qu'on ne vous l'a jamais dit ça. Ne te consacre pas totalement à moi, au Seigneur. Parce que tu comprends, vis ta vie. N'oublie pas que ta pétanque, que ta piscine, que ta vélo, que ta Paris-Roubaix, que tu as le cheval, les concours équestres, etc., etc. En Matthieu 16, vous savez, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire que vous connaissez très bien. C'est Pierre qui déclare que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus dit, qui dit-on que je suis ? Pierre répond, tu es le Fils du Dieu vivant, alléluia. Pierre, Jésus lui répond, c'est bien Pierre, tu es plus que parfait. Il aurait pu être français, Pierre. Et sur cette, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Il a mort, il annonce qu'il va être arrêté, qu'il va souffrir de la part des chefs religieux, etc. Et Pierre réagit tout de suite, il dit, oh, à Dieu ne plaît, ça ne t'arrivera pas. Vous connaissez ce passage, tous, j'espère, en tout cas. Et que fait Satan ici ? Par la bouche de Pierre, il dit, Jésus, c'est bien, tu es venu, tu as reçu, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, tu guéris, tu délivres, tu libères les gens. Ne va pas plus loin. C'est ce que Satan est en train de faire par le mensonge. Jésus dira, arrière de moi Satan, il a bien vu le coup venir, car tes paroles ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. En fait, Satan, par la bouche de Pierre, est en train de dire, sois prudent Jésus, ne donne pas plus. Ne te consacre pas plus. Alors que le langage de Dieu, la pensée de Dieu, donne-toi entièrement. C'est ce qu'il dit. Et va jusqu'à la mort pour le salut des hommes, pour le salut de ceux qui sont ici. Et souvent, Satan utilise ce mensonge-là pour freiner les croyants à se donner pour Dieu. Et souvent, à travers des situations difficiles, je suis sûr que je parle à quelqu'un là. Souvent, tu as vécu, et peut-être que tu as vécu des circonstances telles qui aujourd'hui te font dire, maintenant je serai prudent. C'est pas vrai ? Enfin, c'est pas vrai. Vous répondez si vous voulez bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je dois absolument vaincre le mensonge par la vérité. Et Jésus qui est en moi, qui est la vérité, veut vaincre ce mensonge-là dans la vie de personne aujourd'hui. C'est ainsi que Satan fait, il cherche à limiter l'œuvre que Jésus voudrait faire à travers nous. Et l'un de ses mensonges préférés, c'est d'inspirer cela. Et je crois que plusieurs d'entre vous, et pour moi sans doute, le temps est venu de rejeter ce mensonge. Et on peut le faire. Et puis, adapte ta théologie à celle du monde, sinon tu vas être rejeté. Ça, c'est souvent, vous savez, j'ai discuté, j'avais une situation qui était pesée sur mon cœur vendredi. Et pendant une heure, j'ai discuté avec quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Merci Seigneur pour le corps du Christ. Parce que je n'avais pas la paix par rapport à cette situation. Et donc, j'appelle cette personne et cette personne a dit, écoute, tu m'envoies ce gros paquet-là, laisse-moi le temps de réfléchir et je te rappelle après. 10 minutes après, elle me rappelle et elle m'a donné vraiment la sagesse et vraiment merci Seigneur pour cette personne. Mais au-delà de tout ça, elle a beaucoup parlé après, et puis elle a dit, tu sais, elle a un travail assez particulier. Elle travaille dans le domaine de la protection de l'enfance. Et elle m'a dit, cette personne, tu sais, aujourd'hui, le monde va totalement dans le contraire de ce que Dieu veut, et ça touche, ça va jusqu'à toucher les chrétiens aujourd'hui. Aujourd'hui, les valeurs du monde entre dans le cœur des croyants. Quoi qu'on en dise, aujourd'hui, on a beaucoup, 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 je trouve, de personnes qui disent « Ah, moi, j'ai aucun problème par rapport à l'avortement. Moi, j'ai aucun problème, par exemple, par rapport au divorce. J'ai aucun problème par rapport à l'infidélité. » Et croyez-moi, il y a des chrétiens aujourd'hui qui disent ça. J'ai aucun problème par rapport à des gens qui se marient, de même sexe qui se marient ensemble. Et clairement, toutes ces pensées sont en train de, tel le cancer, grignoter du terrain dans le cœur de l'Église aujourd'hui. Or, les choses soient claires, c'est un mensonge, parce qu'aujourd'hui, le but de Satan, le but, c'est d'amener le péché pour que ce qui fait notre puissance, notre victoire, devienne une défaite. Jésus-Christ a vaincu le diable et ses mensonges. Et puis, le troisième point, c'est sur les inquiétudes. 2 Corinthiens 2,14, il est écrit, alors d'abord, juste avant, Paul fait référence à son esprit qui n'était pas en repos suite à quelques inquiétudes concernant des nouvelles de Troas qu'il avait eues et des incertitudes. En 2 Corinthiens 2,14. Les inquiétudes de nous, les inquiétudes nous paralysent, pardon. Moi, j'ai quelque chose que j'ai remarqué, peut-être pas vous, mais je pense quand même qu'on doit se ressembler un petit peu. On a le même cœur humain. Les inquiétudes, parfois, peuvent nous paralyser. Moi, je sais que quand je suis très inquiet, j'ai eu toujours un moment où je me sens comme incapable de prier sur le coup. C'est comme si mon cœur se fermait, vous voyez ? Et comme si j'étais paralysé, comme quelqu'un qui vous crie dessus. Et puis, vous êtes là, oh, que m'arrive-t-il ? Et c'est là où aussi, parfois, on a besoin d'appeler quelqu'un pour nous rassurer aussi, qu'on a besoin des uns et des autres. Et quand on a une inquiétude comme ça, ben c'est comme si c'est comme si je devenais incapable de prier, de faire des choix, de me mettre en action. Or, que dit ce passage ? Paul, tout de suite après ses inquiétudes, dit que Dieu, vous pourrez vérifier, hein, je ne pouvais pas tout mettre, hein, que Dieu soit remercié, lui qui nous fait triompher en Christ sur l'inquiétude, mais regardez derrière, et qui propage partout et à travers nous le parfum de sa connaissance. C'est-à-dire que Paul, à un moment donné, il est inquiet, il a des incertitudes qui l'ont bouleversé. Il dit « Mon esprit n'était pas dans la paix ». Pour que Paul dise ça, je ne sais pas si vous savez, mais le gars, il a été lapidé, laissé pour mort, rejeté, etc. Il a été roué de coups de bâton, etc. Et là, parce qu'il y a des nouvelles, le gars est paralysé. Comme quoi, parfois, on peut avoir des moments dans notre vie où on est vulnérable. Et Paul est en train de dire, c'est comme si j'étais bloqué dans mon ministère à ce moment-là, dans ma capacité de servir Dieu. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais que Dieu soit remercié, lui qui nous fait triompher, et qui propage à travers nous la bonne nouvelle, le parfum de sa connaissance. C'est-à-dire que Paul a été capable, malgré les mauvaises nouvelles, malgré ses incertitudes, de servir le Seigneur. Voilà ce qu'il est en train de dire. Vous irez vérifier dans 2 Corinthiens. Il y a 3 choses que Dieu veut nous faire prendre conscience sur la victoire. 1. La puissance du péché est vaincue par Christ en moi. Parce que j'ai la vie en lui. 2. Il veut vaincre et il a vaincu la puissance du mensonge qui veut me faire croire des choses contraires à sa parole. Parce qu'il est en moi. Vous avez vaincu, dit Paul. Petits enfants, vous avez vaincu. 3. Il veut vaincre la puissance des inquiétudes. Maintenant, je vais vous donner... Ça va, c'est pas trop long ? Non ? Les œufs de Pâques vont pas fondre, ça va ? Bon. Il y a 4 clés. Je vais essayer d'être assez rapide. 4 clés pour entrer dans la victoire avec Jésus. Je prends l'exemple de Josué. Josué, et ce qu'il représente, il représente une génération, une nouvelle génération. Pas une génération qui va tourner en rond. Parce que cette génération-là n'a pas pu et n'a pas su entrer dans la victoire à cause de leur incrédulité. Ils ont tourné manège. Ils ont tourné pendant 40 ans. Mais Josué, il représente l'homme et la génération qui fait rentrer le peuple de Dieu vers autre chose, vers la position, la possession des promesses de Dieu. Et Dieu va lui dire, il va être clair avec lui dès le chapitre 1er Josué. Il va lui dire ceci. Je ne l'ai pas pris dans ma Bible. Il va lui dire, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Il va lui dire en fait, fortifie-toi et prends courage. Lève-toi, fils. Ça, c'est un fils qui obéit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a une action. Il y a Josué qui se lève. Dieu lui dit, en fait, lève-toi. Je t'ai choisi. Est-ce que tu entends cette invitation de la part du Seigneur ce matin? Si tu veux posséder la victoire, la première des choses, c'est que si tu es assis, si tu es à ne rien faire, il est temps de te lever. Tu ne te lèves pas, pas de victoire. Tu te lèves, t'as la victoire. La deuxième, il lui dit ceci. Ne te laisse pas emporter par les distractions. Ne te laisse pas aller ni à droite, ni à gauche. Et combien les distractions peuvent nous éloigner. En fait, tu veux être victorieux, tu dois te lever. Mais tu ne dois pas te lever pour retourner dans ton lit ou aller partir en vacances, je ne sais pas où vous voulez, là où il fait beau, parce qu'en ce moment, c'est difficile. Il lui dit, ne te détourne ni à droite, ni à gauche. Qu'est-ce que c'est-à-dire? C'est que Dieu lui donne un point fixe. C'est quoi? C'est la conquête du pays. Et la priorité de Josué doit devenir ce point fixe. Combien il est important d'entendre ce que Dieu est en train de nous dire en ce moment, en tant que personne, mais en tant que communauté. Moi, je ne veux pas me laisser aller vers les distractions. Mais je veux garder l'objectif de ce que Dieu me demande de faire en tant qu'homme, en tant qu'époux, en tant que père, que grand-père, pas encore arrière-grand-père, ça viendra, j'espère. Mais en tant que pasteur, en tant que responsable d'église, il me demande de faire des choses et je ne dois pas me laisser. Si, ça viendra, tu seras maman un jour. Pas demain, mais dans quelques années. Et le but, c'est je ne me laisse pas distraire. Et je peux vous dire qu'en une semaine de retraite, j'avais toutes les portes pour me laisser distraire par plein de choses. Je peux vous dire. Et je me suis dit, Seigneur, oh là là, il va falloir que je corrige le tir. Je vous assure que c'est vrai. La troisième chose, il dit, déclare la parole de Dieu. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, dit-il. Il dit à Josué, mon fils, tu te lèves, tu gardes l'objectif. Mais pour pouvoir tenir jusqu'à cet objectif-là, il va falloir que tu fasses autre chose. Il va falloir que tu prennes ma parole et que tu la proclames. Et vous comprenez pourquoi, souvent, on peut recevoir de la part de Dieu un appel. On peut recevoir un appel de la part de Dieu. On peut se dire, attention, ça c'est ton objectif, Bruno. Mais combien je dois réécouter. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là au ministère prophétique, là, au séminaire prophétique à ESF dernièrement, la parole qui a été enregistrée me concernant, je la réécoute. Parce que j'ai besoin de lutter contre le mensonge. Et à chaque fois, je vais vers ça. Cette parole, elle me soutient pour continuer à marcher. Et il ne peut pas y avoir... Bien sûr, on a besoin de l'encouragement des frères et des sœurs, je vous entends. On a besoin de dire oui, vas-y, continue, etc. Mais c'est surtout, on a besoin d'entendre Dieu nous parler et nous dire vas-y, fils ou fille. D'accord ? Et le quatrième, soit focalisé sur la victoire. Le problème, vous savez, il dit au verset 9, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. La grosse difficulté que j'ai, moi, peut-être vous, peut-être pas vous, hein, après, mais moi, j'ai cette difficulté-là, sur laquelle je dois lutter sans cesse. C'est de me dire, à chaque fois, j'ai la petite question qui dit, est-ce que tu vas y arriver, Bruno ? Alors qu'il me suffit de me lever, il me suffit de ne pas me laisser distraire, il me suffit de proclamer ce que Dieu m'a dit, et le reste va venir naturellement. Le succès ne dépend pas de moi, c'est Dieu qui me le donne en Christ. La victoire est en Christ. C'est grâce, non pas à mes capacités, mais grâce à Christ en moi. Ce n'est pas par mes propres forces, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par mes propres moyens que je suis sauvé. Non, c'est par le moyen de la foi. Ça, c'est un don de Dieu. Tout ce que je suis, tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, c'est en Christ que nous l'avons, pour Christ et rien que pour lui. C'est Jésus qui doit être glorifié à travers tout. Voilà, je crois que j'ai fini. On va rentrer dans la victoire. Maintenant, le jour de joie, le jour de victoire qu'on va chanter, il a une autre saveur, vous comprenez ? Ce n'est pas juste jour de joie, jour de ta victoire. Ce n'est pas ta victoire. Pâques, c'est la fête de la victoire de Jésus. C'est la fête de ma victoire en Jésus. Waouh ! Et là, c'est différent. Est-ce que vous comprenez ça ? C'est totalement différent.